Ça va bien? C'est vraiment, je vous remercie, c'est un pur, pur, pur bonheur d'être avec vous. Vous savez, j'ai quitté Montréal jeudi soir et c'était un vol, un gros Airbus de 300 places et nous étions 30 personnes dans l'avion, n'est-ce pas? 29 Suisses qui rentraient chez eux et une Canadienne qui venait braver le coronavirus en Suisse. Et je suis tellement heureuse. Et quand je suis partie, tout le monde m'a dit « T'es sûre que tu vas aller en Europe? » Parce qu'après ça, je m'en vais sur Paris. Vous voyez, Paris, c'est un peu chaud en plus. Hein. Donc, mais c'est tellement un bonheur pour moi. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette pandémie que personne n'avait vue. Hein. Tout le monde, on avait des projets, on avait des plans. Et tout à coup, tout s'est mis sur pause. C'était une période très difficile, probablement pour beaucoup d'entre vous, pour moi aussi différente. Mais j'ai choisi de voir les choses positives à travers ça. Et une des choses positives, c'est de réaliser quel privilège que j'ai de pouvoir voyager et avoir des amis en France, des amis en Suisse, des amis en Belgique. Et je veux vous dire que je vous aime, je suis très, très émue, je voulais vraiment venir. J'ai fait samedi toute la journée à Neuchâtel, ce matin et ce soir, et ils m'ont kidnappé comme un colis, vous savez. J'ai dit colis arrivé. Mais je voulais vraiment être avec vous parce que je vous aime. J'étais tellement contente de vous voir et de voir des visages. Et de voir un an plus tard, de voir toutes ces belles femmes-là. Vous êtes précieuses, inspirantes. Merci pour Mylvia, Maya, toutes ces idées. Et juste, dis à la femme à côté de toi, dis-lui là, t'es belle, dis t'es belle. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu là, t'es belle. T'es belle. Dis l'autre côté, dis-lui tu es précieuse, là, tu es précieuse. Je me suis ennuyée de toi. Ah. Et quand on était isolé, je pense confiné, c'est toutes ces relations-là qu'on s'aperçoit que c'est important d'avoir des relations. Et juste partager une simple pensée. On m'a dit que j'avais une heure devant moi. Ça va? Je sais que vous voulez manger votre dessert, mais je veux vous partager la pensée que Dieu m'a donnée pour moi durant cette pandémie. Et l'idée de... Je pense que vous connaissez mon tempérament un peu hyperactif, n'est-ce pas? Et le Seigneur m'a dit cette année, je veux, avant de faire, je veux que tu sois. Avant de... vous savez, c'est, à l'école, on avait le savoir-faire et le savoir-être. Et bien souvent, dans notre société, les femmes, on est sous la pression, la performance. Il faut toujours mince le poids, l'exercice, manger bio, s'occuper des mères. Il faut tout faire. Et le Seigneur a dit, c'est une pause et c'est une pause pour ton âme. Je veux te dire combien je t'aime, combien tu es précieuse. Et il m'a donné, il m'a ramené à la pensée de porter du fruit. Et moi, je suis plutôt urbaine, voyez-vous, et je suis loin. Et mon fils, il retournait aux études, et il étudie en bio-agroalimentaire, n'est-ce pas? Et puisque j'étais en pause, il m'a dit, « Maman, on fait un jardin cette année. » Je dis, « Un jardin? Qu'est-ce qu'on fait qu'un jardin? » Moi, j'ai un jardin, c'est vraiment la dernière chose dans ma vie que je veux faire. Aller au sport, faire les boutiques, mais un jardin, c'est pas mon truc, tu vois? Et là, ben, je me suis dit, j'ai du temps, on va faire un jardin. Donc, on va acheter les trucs, les semences, on met ça en pot. Et à chaque... Je me suis surprise moi-même, il faisait beau à Montréal cet été. Et là, je sortais le matin avec mon café. Puis là, je me disais, oh! On avait planté des fraises. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il y a une fraise? Puis là, je me suis dit, ah, non, pas encore. Et finalement, un matin, je me lève, on avait notre première fraise. Wow! Et j'étais, écoutez, cherche le cellulaire, le téléphone, vois-tu? Et là, je prends la fraise, clic, 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 sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, j'ai une fraise, tu sais? J'ai dit, Christine, qui est ici, que je raconte ça dans la voiture, qui elle est en horticulture. Mais là, moi, j'étais très fière de moi. J'avais ma première fraise. Et la pensée qui est venue sur mon cœur, Dieu me parle de toutes sortes de façons. Le Seigneur m'a dit, Stéphanie, c'est exactement comme ça que je me sens quand tu portes du fruit. Quand tu portes du fruit, c'est comme Dieu il sort de son ciel en deux nuages. Puis, wow! Wow, Maya, quand tu as donné cette parole d'amour-là, quand tu as fait ce sourire-là, quand tu as donné cette personne,
personne le voit. Et dans la parole de Dieu, on voit partout l'idée des semences et des récoltes. Et ne vous en faites pas, c'est à peu près tout ce que je sais en horticulture. Mais dans, je suis meilleure en Bible qu'en horticulture. Mais j'ai même planté une vigne juste pour voir, parce que dans la parole de Dieu, on voit beaucoup le peuple de Dieu est comparé à une vigne. Mais dans le livre de la Genèse, la première clé que je veux vous partager, c'est le désir de Dieu est de nous voir porter du fruit. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons des femmes épanouies, des femmes resplendissantes, des femmes qui sont bien dans leur peau. Et quand on est bien restauré, guéri, on peut briller pour la gloire de Dieu. Et comme c'est dans Genèse, chapitre 2, but de là, je vais vous faire ça très rapidement, ça dit « L'Éternel, Dieu, planta un jardin dans l'Éden du côté de l'Est, et il mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel, Dieu, fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir. » Et ça, c'est très au sens figuré, mais c'est la même chose. Nous sommes ses arbres, sa plantation. Il prend plaisir à nous voir. Tu sais, la belle femme à côté de toi, là, Dieu prend plaisir à te voir.
Dieu prend plaisir à te voir.
Tu peux lui dire aussi. Tu peux lui dire.
Dieu prend plaisir à te voir.
T'as une belle fraise aussi. T'as une belle fraise. Et Dieu prend plaisir. Il dit qu'il fut poussé du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Et dans la parole de Dieu, on voit souvent, et je vais un peu écourter, mais dans le texte que je veux partager avec vous, c'est l'idée que Dieu prend plaisir, il veut qu'on porte du fruit. Et dans Jean chapitre 15, je vous donne un petit devoir, méditez Jean 15, où c'est là qu'il nous dit, « Vous êtes plus mes serviteurs, je vous ai choisi, vous êtes mes amis, et mes amis savent qu'est-ce que je veux faire. » Et ensuite, ils vont enchaîner avec l'idée de porter du fruit. Et ça dit, Jean 15, juste 1, 5 et 8, ça dit, « Je suis le vrai plant de vigne, et mon père est le vigneron. Je suis le cep de la vigne, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père sera manifestée. » Et je voudrais nous encourager à être des femmes qui portent du fruit. Quelle sorte de fruit on pense? La première idée qui vient à l'esprit, quelle sorte de fruit que Dieu veut qu'on porte?
Une fraise.
Une phrase, mais quand on parle des fruits dans la parole de Dieu, on parle souvent des fruits de l'esprit. Dieu veut qu'on soit, et malgré tous les soucis de la vie avec ce qu'on traverse, que Dieu voudrait qu'on porte des fruits de l'esprit qui sait que c'est quoi l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il parle aussi de fruits des œuvres de justice. Ça nous parle, Éphésiens, des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et j'aimerais juste qu'on puisse, tout à l'heure, on va prier en quelques instants, mais qu'on puisse attraper, peu importe la saison de notre vie, je voudrais vous encourager à porter du fruit. Et vous savez, il y a un endroit quand Moïse a envoyé les espions pour explorer la terre promise. Vous savez, ils sont venus avec une branche, puis il y avait des gros raisins. Ils portaient une grappe de raisins. Imaginez, quand mes enfants étaient petits, je leur racontais toujours l'histoire, puis je mimais la grappe de raisin. Une grosse grappe, et j'étudiais la sorte de raisin. La grappe pouvait avoir pesé jusqu'à 15 kilos une grappe de raisin. Et c'est ce qu'ils sont allés explorer le pays. Ils ont ramené des raisins énormes. Mais ça, c'est une façon de porter du fruit. Mais je veux juste vous dire qu'il y a des gros fruits qui sont visibles. Mais Dieu prend plaisir aussi aux petits fruits invisibles. Des petites fraises. Nous, aux États-Unis, ils ont des grosses fraises boostées aux hormones. Mais les petites fraises du Québec. Et je veux t'encourager que dans n'importe quelle saison de notre vie, le texte, on ne le développera pas, mais lorsque nous restons, la clé, c'est quand je suis attachée à la branche, au tronc, c'est la force de Dieu qui vient en moi pour m'aider à porter du fruit. Et je vous invite, parce que dans les prochaines semaines, allez voir sur mes réseaux sociaux, je suis en train de développer, premièrement, un nouveau livre sur l'espoir qui va sortir en octobre, vraiment. Dans la pandémie, j'ai écrit beaucoup de belles révélations. Mais j'ai un blog qui est aussi des capsules qui vont s'appeler les défis de Stéphanie. Et je vais lancer des défis sur comment porter du fruit quand on est à bout de souffle, quand on est fatigué. Et comment la force de Dieu qui nous aide à porter du fruit. Et, mais il y a toutes sortes de façons. Et une chose importante que mon fils me dit toujours, Philippe, Jérémy me disait, « Maman, le plus important en horticulture, c'est le substrat. Dans quoi pour avoir des beaux fruits, il faut que la terre soit bonne. Quand la terre est riche, c'est correct, Christine, ça, ça va, je dis pas une fausseté. Si la terre est riche, c'est beau, ça? OK. Jusqu'à un certain point, c'est vrai. Mais imaginez, j'arrive, quand on arrive à la, le substrat, pour dire, c'est comme si on a l'impression que lorsqu'on, pour porter du fruit, pour être patient, pour être douce, pour être aimable, c'est quand notre vie est parfaite. Hein, pour moi, je me disais, c'est là quand, pour porter du fruit, c'est quand ma terre va être riche en minéraux, que je vais être abreuvée, que mes enfants vont être parfaits, que mon mari il va être parfait. Tout est parfait chez moi, hein, je vous rappelle. Mais évidemment, mes enfants ne sont pas parfaits. Si j'attends que mes enfants soient parfaits pour démontrer l'amour, la patience, ça n'arrivera pas demain. Si j'attends que mon mari soit parfait, que ma vie, que mes finances, vous comprenez? Et moi, dans mon esprit, c'est que je me disais, ben avec tout ce que je vis, là, c'est un peu normal que je sois un petit peu moins douce. Avez-vous déjà pensé ça? Vous êtes tous, on est tous de la même nature que nous. Et c'est fascinant, et je vais vous laisser avec ce texte-là. Et ce qui est beau dans ça, c'est quand si je vous pose aujourd'hui, quel est l'état de votre terre? Et lorsqu'on arrive à la parole de Dieu, dans la Bible, nous, le peuple de Dieu, est souvent représenté par une vigne. Alors, pendant toute cette pandémie-là, j'ai étudié beaucoup de textes sur la vigne et j'ai même planté une vigne au Québec. Donc, d'ici un mois, je vais avoir la cuvée Stéphanie, je vais faire mon propre verre. Mais, je vais vous laisser avec cette pensée-là. Si je te pose ce soir la question, comment est l'état de ta terre? Est-ce que ta terre, elle est riche ou elle est pauvre? Est-ce que ta terre, elle est abreuvée ou elle est asséchée? La bonne nouvelle, c'est que peu importe l'état de notre terre, Dieu est le Dieu Tout-Puissant, le Père qui nous aime, qui peut nous donner la force de porter du fruit, d'être épanoui malgré des saisons difficiles. Et pourquoi je peux dire ça? Parce que, comme je dis, dans la Bible, on est comparé à une vigne. Et il y a un texte dans Ésaïe, qui est ici, que je vais vous lire. Ça dit dans Ésaïe, et je veux chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. C'est un peu poétique. Il veut chanter, voilà. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué le sol, enlevé les pierres, ça va bien jusqu'à date. Il a enlevé les pierres, il a mis des plants de premier choix. Alors cet homme-là veut avoir les plus beaux raisins. Alors il plante sa vigne, il enlève les cailloux qui pourraient empêcher les choses de pousser, il prend les plus belles plants. Et ça dit, il a construit une tour au milieu d'elle, il a installé aussi un pressoir, puis il a espéré que la vigne porte du fruit. Mais il s'est passé tout à fait l'inverse, c'est écrit, vous allez le voir dans Ésaïe 5, verset 2, il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit du mauvais. Je trouvais que c'est quand même étrange. Trouvez-vous que l'homme est plein de bons... Et quand on étudie sur la vigne, les horticulteurs, et là je parle, j'y vais avec, ici il y a plein de vignes, mais je me lance parce que j'ai étudié la chose, et pour que le raisin soit juteux, goûteux, et il faut qu'il y ait des cailloux dans le sol, c'est vrai ça? Et à Saint-Émilion, ou dans des régions des grands vins, il y a un grand château qui s'appelle, à Bordeaux, un château qui s'appelle le Château du Cru Beaucaillou. Alors, ils ont donné ce nom-là parce que les meilleurs vins les plus prestigieux poussent dans des régions qui ont des cailloux. Et dans la région de Grave, c'est une région qui veut dire galets, gravier. Et la bonne nouvelle, c'est que comme des vignes, Dieu nous compare à ces vignes-là, ça nous prend des cailloux dans la vie pour pouvoir porter du fruit. Dieu va utiliser tous les cailloux de la vie. S'il n'y a pas de cailloux, la vigne, c'est facile, elle se développe des feuilles et non des fruits juteux. Mais quand il y a des cailloux, elle devient plus forte, elle creuse ses racines plus profondément. Et c'est comme ça qu'elle porte encore plus de raisin. Alors je dis, Stéphanie, tu es en train de nous dire, ah, ça prend des cailloux dans notre vie. Malheureusement, les filles, les cailloux font partie de la vie. Par contre, on a un choix. Des fois, on ne sait pas ce qu'on veut. Qui veut des cailloux dans sa vie? Qu'est-ce que c'est des cailloux? Avez-vous des cailloux? Donnez-moi un exemple de cailloux.
Si c'est des diamants.
Ça. Si c'est des diamants, ça, oui, ça coûte bien. Voilà. Quand je parle des cailloux, vous savez, ça peut être la maladie, ça peut être un mariage difficile, ça peut être des enfants qui s'éloignent de Dieu. Mais je veux juste vous dire que si vous êtes face à des cailloux, Dieu va utiliser les cailloux de vos vies pour faire des femmes encore plus influentes, encore plus puissantes, encore plus inspirantes. Et il va vous donner cette force-là. Amen. Et la dernière chose, avant de vous laisser, on parle de l'état de la terre. C'est important d'avoir un bon temps. N'oublie pas le caillou. Ne vois pas le caillou de ta vie comme un obstacle. Mais au contraire, quand tu restes accroché au cèpe, au tronc, Dieu va te donner la force de pousser tes racines profondément et de porter du fruit. Et la dernière question, est-ce que vous croyez qu'il est possible de porter du fruit en hiver? Est-ce qu'on peut porter du fruit en hiver?
Ah ouais, il y a souvent...
M'entends à ta voisine, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est possible de porter du fruit en hiver?
Tu sais qu'il y a des montants tardifs, là. On a pris le premier gel, hein? Essaye de trouver celui-là, il est beau. C'est les premières gelées.
C'est possible de porter du fruit en hiver? Qui dit oui, qui dit non?
Oui.
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 Oui. Oui.
Pourquoi, Mélia?
Parce que là, on ramasse du vin au vendange tardif, c'est après les premiers gels.
Ouais.
Le kiwi, pareil.
Le kiwi? Ouais.
Le kiwi peut pousser ouais. qu'après le gel, le premier gel.
Exact. Est-ce que d'autres personnes me disent? Oui. Oui, du kiwi en hiver, c'est exact.
Les kakis.
Les kakis, oui.
Ah oui, en hiver.
Oui.
Mais des maillards, des milliards, des civils, ton nom, Edita, mais tu es en nationalité, des Stéphania, plus fort. Nous sommes une race de Dieu qui pouvons, les femmes, porter du fruit en hiver. Et pourquoi je termine, je te fais trois fois que je termine, mais je termine vraiment. Je me sens ennuyée de vous. Et la dernière illustration que je vous donnais, parce qu'on parle des semences, c'est Joseph. Vous savez, Joseph, c'est un... On peut dire que Joseph est un homme qui a eu quelques cailloux dans sa vie. Êtes-vous d'accord avec moi? Cailloux, il commence, lui, sa vie avec une bonne intention. Son idée, il reçoit un rêve, un songe, et il a eu la bonne idée de le partager à ses frères. Il a dit, hein, je vous ai vu comme des rameaux, vous allez courber devant moi. Très, très mauvaise idée. Et à partir de cela, c'est pas un caillou qu'il a eu, c'est le gravier au complet qui s'est laissé. Et vous savez, il a été trahi, vendu par ses frères, en esclave, traité justement, accusé par la femme de Potiphar, mis en prison une fois, deux fois, trois fois. On est d'accord qu'un homme comme Joseph aurait pu donner un fruit amer. Il y avait tous les cailloux dans sa vie pour dire, hey, avec tout ce que j'ai vécu moi, laisse faire l'amour, la patience, la joie, la douceur, la générosité. Et pourtant, et c'est le dernier passage que je vous lis, ça m'a tellement touchée dans ces moments de COVID, de savoir que peu importe ce que je traverse, peu importe peut-être que le coronavirus financièrement, ça a été difficile, peut-être coupé de l'église, il s'est peut-être passé plein de choses. Mais Joseph, c'est exactement à son époque ce qu'il a vécu. Et lorsque son père Jacob va parler de son fils à la fin de sa vie, je vais vous lire qu'est-ce que Jacob a écrit sur son fils Joseph. Il a dit, dans Genèse 49, 22, « Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits planté près des sources. Ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille. Et malgré l'injustice, malgré le rejet, imaginez par trahi par tes frères, peut-être vous avez été victime d'une trahison, d'un mari, des proches, dans l'amitié, dans tout ce qu'il a vécu, il avait cet amour pour Dieu, il a gardé, il s'est resté planté près de la source. Et il y a eu deux fils. Joseph a donné, avec son épouse, naissance à deux fils. Un premier fils, c'est tellement beau, vous allez dire, ah, avec moi après. Le premier fils que Joseph a eu, il s'est appelé Manassé. Et Manassé, ça dit, car Dieu m'a fait oublier toutes mes peines, et toutes mes peines dans la maison de mon père. Et tu vois, le fait, la signification d'un nom a une importance capitale. Et la vie de Joseph, un homme qui aurait pu porter du fruit amer, a porté un fruit bon, et il rend gloire à Dieu. Dieu m'a donné la force d'oublier les peines que j'ai eues dans la maison. Et ça, on peut enfanter, donner un fruit spirituel, démanasser. Dieu peut ce soir, dans un simple moment comme ça, te rappeler qu'il est capable de te faire oublier, de te guérir, de te restaurer de peines, d'injustices les plus grandes. S'il le fait pour Joseph, il le peut faire pour Edith, pour Livia, pour tout mettre ton nom là-dessus. Et le deuxième nom, c'est Éphraïm, car Dieu, malgré tout son lieu d'infertilité, de cailloux, il a écrit « Car Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Alors, dans les plus grands hivers, dans les pays, dans les saisons d'affliction, dans les moments difficiles, Dieu peut vous rendre fécond. Bon, moi j'ai 54 ans, j'espère que ce n'est pas enfanter un autre enfant. Moi j'ai donné dans la maternité. Et respirer, ce n'est pas un autre enfant. Si vous en voulez, gloire à Dieu. Moi ça va, j'attends mes petits-enfants. Mais je veux juste vous dire qu'il est possible de porter des fruits en hiver et que Dieu peut nous faire oublier, restaurer, guérir les peines dans la maison qu'on a été brisée, et il peut nous rendre fécondes, il peut nous faire porter du fruit dans des moments d'affliction. Amen.
Amen.
Alors, c'est cette petite pensée et j'aimerais, je crois vraiment sur mon cœur dans ce temps de pandémie, ça ne prend pas une grande révélation, mais en ce moment, c'était déjà anxiogène la vie. Mais en ce moment, il n'y a rien de plus insécure partout où on va. Et vous savez, le texte que j'ai lu dans Jean, c'est « Si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Et moi, je crois que chacune d'entre nous, lorsqu'on va porter du fruit, même si on a des cailloux, on est sur une vigne avec des cailloux, même si on est dans un pays d'affliction, Dieu, par la force, peut nous donner cette force-là. Et ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire à travers vos vies. Vous êtes des témoignages. Vous êtes des perles précieuses sur le collier de Dieu. Et ce n'était pas l'idée de mettre un joug, de dire « Ah, il faut que je sois gentille. » Non. Lorsque je reste accrochée au tronc, Dieu me donne la force. Et je veux rechercher. En tout cas, pour ma part, je trouve que ces moments de pause, ces moments de défi, Dieu m'interpelle à être, au lieu de pas juste prêcher, pas juste faire, pas juste paraître sur Facebook, pas juste paraître sur Instagram. Ça, c'est du vent. Ce qui va compter, c'est un sourire pour quelqu'un dans la rue. C'est une main tendue. C'est la maîtrise de soi. Tu sais, quand vous avez envie de péter un plomb, là, mais que Dieu te donne la force. Et comme ça, c'est... Ben, pas moi, là, mais ça peut vous arriver jamais. Moi, je ne pète jamais de plomb, vous savez. Mais vous comprenez l'idée qu'on puisse ensemble rechercher les fruits de l'Esprit et être des témoignages pour la gloire de Dieu. Non pas par nos forces, mais malgré les cailloux, malgré les terres arides, et juste en restant accroché à sa présence. Amen. Est-ce qu'on peut conclure en prière? Est-ce que juste on pourrait prier, j'aimerais qu'on puisse juste fermer les yeux, une simple prière. Et c'est très très simple, hein, on est entre femmes et puis ça ne sera pas tellement long. Mais vous savez, on ne fait pas tous ces kilomètres-là de partir de Neuchâtel à Saint-Mille. Vous êtes important. Vous êtes important pour moi, pour ces femmes ici. Vous êtes important pour Dieu. Vous êtes aimé de Dieu. Vous n'êtes pas seul. Dieu marche au-devant de vous. Il connaît chacune de vous par son nom, chacune situation. Il connaît chaque cheveu de ta tête. Il connaît l'état de ton cœur les plus secrets. Il est ici dans ce restaurant. Dieu est partout. Il est ici. Alors, juste si tu as besoin que, juste de mettre ta main sur ton cœur, si tu as juste besoin que Dieu vienne juste te rafraîchir ce soir, juste qu'il vienne te montrer son amour, qu'il vienne te rafraîchir par sa présence, qu'il t'aide à porter du fruit malgré les cailloux, malgré l'hiver, une saison hivernale. Et juste en mettant notre main, je vais prier. Seigneur, je te prie, toi, que chacune des femmes qui ont la main sur le cœur, tu les connais. Dans la simplicité de ce moment, mais dans la puissance de ton nom. Toi, tu n'es pas limité. Ta présence est dans ce lieu. Ta présence, tu n'es pas dans des églises fermées d'hommes. Nous sommes l'église des pierres vivantes. Alors, dans ce lieu, viens déposer. Je te prie pour une femme qui a besoin de se sentir aimée, qui a besoin d'avoir ta force, qui a besoin que tu viennes l'entourer de tes bras d'amour, qui a besoin que tu viennes la toucher ce soir. Tu n'es pas limité, alors viens dans ce simple moment. Viens, Seigneur, donne une paix. Tu dis que tu nous donnes une paix, tu ne nous donnes pas comme le monde donne. Tu nous donnes une paix qui dépasse toute intelligence. Alors si une femme dans ce lieu, tu as besoin de sa paix, il est ici, il est le Dieu de paix. Seigneur, viens toucher. Tu es celui aussi qui nous rend féconds dans des moments d'affliction. Alors je te prie pour moi, toutes les femmes dans ce lieu, que tu puisses nous donner cette force de briller pour ta gloire, que nous puissions avoir cette joie qui vient de toi, que nous puissions avoir cet amour, cette maîtrise de soi, cette patience. Par nos propres forces, nous ne sommes pas capables. Mais attachés au sceptre, ta vie vient dans nos cœurs nous inonder. Alors je viens aussi, je te prie que tu puisses enlever des fardeaux. Je sens qu'il y a des femmes dans ce lieu, vous êtes venues avec des fardeaux. Et la Bible nous dit hein, que son joug est léger et son fardeau est léger, son joug est doux. Alors il est ici pour porter ce fardeau avec toi et même prendre ce fardeau et le mettre sur ses épaules. Alors Seigneur, viens enlever tout fardeau. Viens mettre la confiance. Viens nous rappeler que tu marches au-devant de nous, qu'il n'y a rien d'impossible à toi. Tu es le Dieu de toute possibilité. Tu es le Dieu de miracle, tu es le Dieu puissant, tu n'as pas changé. Alors, je te dis merci à l'avance. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Et merci pour chacune des femmes dans ce lieu. Amen.
Amen. Merci.